Le livre s'appelle « Ma vie sur un tabouret », sous-titré « Autobiographie » et qui a été une autobiographie écrite et travaillée avec Franck Bédioni. Je signale, c'est chez Actes Sud qu'il y a une préface formidable de André Auder. Et je pense que ceux qui ne le savent pas auront plaisir à apprendre qu'André Auder est un des grands compositeurs et musiciens de ce temps. C'est aussi un très grand écrivain et c'est un critique musical qui a apporté des notions, une rigueur, une façon de dire la musique très nouvelle et décisive en France il y a maintenant quelques décennies. Je signale aussi, parce que c'est une chose peu connue, que André Auder est un écrivain de livres précieux et rares, et c'est aussi un écrivain de livres pour enfants. Et ça, je pense qu'on le saura plus tard, mais enfin voilà. Et la préface d'André Auder commence de cette façon-ci, parlant de Martial Solal. Le style d'abord, la manière, dès qu'on l'entend jouer, aucune erreur n'est possible, on sait que c'est Solal. Ensuite, il y a le degré de perfection qu'atteint le virtuose. Pas seulement les doigts, la tête aussi. On pourrait dire que la philosophie paternelle, de l'ordre, n'est pas restée lettre morte. La technique instrumentale, fruit d'un travail renouvelé, est mise au service d'une discipline intellectuelle rare chez un improvisateur. La deuxième remarque que je ferai sur ce livre que j'ai pris, un plaisir extraordinaire à lire à la mesure de sa discrétion et de sa modestie. Mais après, j'essaierai de demander à Martial Solal devant vous comment on peut être à la fois aussi modeste et aussi orgueilleux. Mais ça viendra plus tard, cette question-là. Et la deuxième remarque que je fais, je vous le dis, c'est que sur la couverture, il y a une très belle photo avec ce visage serein et souriant de sage né à Oran. Et Martial Solal, sur cette photo, a un crayon. Et le crayon, c'est le stéthoscope du compositeur. C'est l'instrument majeur de celui qui écrit la musique. Le crayon à papier. Je dis des bêtises pour l'instant.
Que je confirme. Non, en fait, le crayon, c'était pour faire croire que j'écrivais la musique, parce que depuis des années, j'écris avec un ordinateur, donc plus de crayon. Il y a une chose, attends, je vous coupe, parce qu'il y a une chose très importante qu'il ne nous a pas dite à propos de ce livre, c'est qu'il vaut 18 euros. Et que vous pouvez l'avoir sur Internet à 17.
Ça, c'est sympa pour l'éditeur, mais... Les notes sur l'ordinateur sont moins jolies que quand elles étaient faites à la main, non ?
Pas du tout, c'est le contraire. Elles sont magnifiques. On peut les faire très petites, très grosses. C'est toujours très lisible à la main, c'est des pattes de mouche. Non, c'est beaucoup mieux.
Vous avez qu'à jouer du piano à l'ordinateur aussi, alors ?
Ben, j'ai essayé, mais c'était moins bien que ce que je fais sans lui.
Alors, une page du chapitre, c'est par chapitre, il y a tous les aspects de la vie, de la carrière, de la route de Martial Solal, en particulier des moments un peu rares que, en tant qu'amateur, nous n'avions pas eu à découvrir et qui sont, pour moi, d'une grande instruction, l'enfance évidemment, et aussi la façon dont vous avez eu, discrètement ou pas discrètement, surtout dans une position, si j'ai bien compris, plus ou moins agnostique, à supporter, comme souvent, l'antisémitisme. Et vous en parlez un tout petit peu là-dedans.
Oui, j'en ai jamais parlé pendant 50 ans, en fait. Juste, tout d'un coup, c'est venu sur le tapis par hasard, et depuis, tout le monde se rue là-dessus. Parce que...
Bah, je vous remercie, d'accord. Eh bien, deuxième pénalty, je suis parti du mauvais côté.
D'accord. Non, mais c'est pas vous qui avez commencé. C'est vrai que c'est devenu une chose dont on parle tout le temps, alors que pour moi, ça n'existait que très rarement. Enfin,
c'est une chose moi aussi, qui m'a... mais je vous raconterai une chose off, mais pas ici, ça n'intéresse personne. Oui.
Facile, peut-être.
Qui remonte à 1967. C'est un souvenir très, très crucial et cuisant pour moi. Vous aviez un concert au Casino Bellevue à Biarritz, comme vous vous rappelez, en trio. Et j'y étais allé avec une bande d'amis, avec ferveur, car déjà, j'étais fou de vous.
Les choses sont comme elles sont, on n'y peut rien.
Il n'y a rien à dire. Et un médecin notable de la ville de Bayonne à côté, très amateur de jazz à l'ancienne, très style Panassier, etc., m'avait dit d'un air qui m'avait confondu, d'abord parce que tout ça me paraissait extraterrestre, il m'avait dit « Ah, vous allez voir, Martial Solal, c'est du judéo-jazz. »
C'est du ?
Judéo-jazz.
Ah oui, ben, je n'avais pas entendu, dommage.
Enfin,
merci,
bon, ça,
merci.
C'est une indication.
Merci, vous me laisserez son nom et son adresse.
Il est mort. La bourgeoisie bayonnaise qui avait des moments extraordinaires. Le chapitre, page 109, qui s'appelle « Le pianiste improvisateur », commence de la façon suivante, et nous allons en parler, si vous le voulez bien, en laissant aussi la place à toutes les questions qui naîtront de vous, hein, parce que c'est peut-être le but de cet entretien. Pianiste improvisateur. J'aurais passé ma vie à apprendre. J'ai beaucoup appris en jouant, en écoutant ceux qui jouaient bien et ceux qui jouaient moins bien. Et parfois, ceux qui jouaient vraiment mal. Chez tous, il y avait quelque chose à apprendre, à apprendre. Chez les meilleurs, c'est facile, on cherche à se nourrir de leur talent, de leur imagination, de leur technique. Des autres, les moins doués, j'ai essayé d'apprendre à ne pas reproduire leurs défauts. En les répertoriant, en les analysant, j'ai appris de ceux qui ne m'aimaient pas, en essayant de comprendre pourquoi ils ne m'aimaient pas. Les critiques, même les plus défavorables ou les plus injustifiées, m'ont été plus bénéfiques que les louanges. Je vais changer de style vis-à-vis de vous, donc. J'ai beaucoup appris aussi en me copiant, en essayant de reproduire ce que je faisais de mieux, j'ai appris en me jugeant, en m'auto-censurant. Ce n'est pas le plus simple. S'écouter est plus inconfortable qu'écouter les autres. J'ai appris à jouer dans n'importe quel lieu, de l'arrière-salle d'une petite crêperie au théâtre des Champs-Élysées, dans n'importe quelle condition, sur un piano droit au centre d'une immense arène en Italie, pour n'importe quel public, celui de mon radio-crochet sur France Musique à celui de l'église Saint-Germain-des-Prés avec toute catégorie de musiciens, de l'orchestre de tango à l'orchestre symphonique. J'ai appris en écoutant ceux qui m'ont emprunté quelque chose, j'ai appris en travaillant, et tout ce que j'ai appris m'a rendu sévère. Je décèle maintenant assez vite chez moi, comme chez les autres, ce qui devrait être amélioré. Conclusion inévitable, nobody's perfect. Pourtant, certains me disent ou me croient perfectionniste. C'est sûrement un défaut puisque cela empoisonne la vie. Et une qualité puisque cela procure tellement de plaisir, tellement d'occasions de se critiquer ou de s'approuver. Et surtout, cela débouche sur le progrès. Je ne connais rien de mieux que le progrès. Je détesterais le travail s'il n'y avait pas le progrès à l'horizon. J'espère qu'on va bientôt pouvoir dire de moi ce soir.
Dis-je bien pour son âge.
C'est ça.
J'ai passé le mois d'août 2007 à écrire ces lignes. Et mon ami Francis, en 30 secondes, voilà, il a tout dit.
Alors, est-ce qu'il y a contradiction, un paradoxe ou quelque chose qui justement vous permet d'avancer entre cette hyper-sévérité, ce contrôle exigeant, terrible. Vous dites des trucs intéressants sur les autres pianistes, par exemple. Tiens, on va faire une liste et puis vous direz ce que vous en pensez. Mais est-ce qu'il y a une contradiction entre cette exigence qui est le fond même de votre acte et puis ce que vous faites, me semble-t-il, quand je vous vois jouer en solo, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à un saut dans l'inconnu ou à une manière d'aller vers le non-savoir, vers justement.
Oui, c'est pour donner le change, en fait, pour pouvoir sauter dans l'inconnu et tout en contrôlant ce qui va arriver sans le savoir une seconde avant, il faut avoir beaucoup travaillé. Donc le travail, c'est uniquement pour avoir une très grande liberté, pour pouvoir m'autoriser à faire absolument ce qui arrive dans ma petite tête sans prévenir, quoi. Je pense que l'improvisation, c'est un métier très dangereux. Et pour être prêt à affronter toutes les hypothèses, toutes les éventualités qu'on n'avait pas prévues, il faut avoir justement prévu toutes les hypothèses d'abord, mais pas dans l'ordre dans lequel on va les jouer, bien sûr. Enfin, la liberté, la grande liberté vient d'un très grand travail, et non pas en faisant n'importe quoi sans contrôler. Ce qui est important, c'est de commencer par faire n'importe quoi, mais dès que c'est joué, dans le quart de dixième de seconde suivant, ça doit déclencher la phrase suivante, l'idée suivante. Donc c'est un processus qui demande du réflexe et du travail. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure.
Et alors, ce soir, vous allez arriver comme il vous arrive de faire, avec une petite liste, comme quand on va faire ses courses.
Oui, à la rigueur, une liste, mais je peux jouer sans liste aussi. Par contre, du Franz Liszt, c'est beaucoup difficile, beaucoup plus difficile.
Et les présentations de vos morceaux, de vos variations sur tel ou tel thème qu'on peut connaître, sont toujours teintés d'une espèce d'humour indécidable. Vous m'avez dit une fois que, parce que moi j'ai écrit plusieurs fois que c'était une des formes d'humour que j'aimais le plus sur cette planète, et vous m'avez dit que vous vous demandiez si je me moquais de vous.
Oui, parce que il faut dire que Francis Marmande me suit à la trace depuis quelques années, et que partout où je joue, Festival Luba ou bien Antibes, Jean Lépin, il est là. Et deux jours après, il y a le compte-rendu de mes concerts. Et à chaque fois, il parle de mes présentations, peut-être plus que de ma musique. Et j'ai toujours cru qu'il me mettait en boîte, parce que c'est vrai que mes présentations n'ont rien. Je fais sourire comme je vous ai fait sourire, mais ça n'a rien de prémédité ni de particulièrement intéressant. Et je me disais, est-ce que je vais trop loin ? Alors, on a eu une conversation très franche au téléphone il n'y a pas longtemps, et il m'a autorisé à continuer.
Oui, mais même en étant assez vexé que San Francisco, San Francis, par exemple, ne s'adresse pas à moi, mais à André Francis.
Je ne vous connaissais pas à l'époque.
Oui, je sais. Personne ne veut poser une question, profitez, c'est le moment où jamais. Je suis professeur, donc ne vous inquiétez pas, quand on pose cette question, c'est que personne ne réagit, et après, il y en a une quinzaine qui se déclare.
Je peux redire, mais
oui, reproduire note à note, c'est bien au début, au tout début, quand on ne sait pas quoi faire. Il faut forcément écouter et essayer tant bien que mal de reproduire. C'est ce que tout le monde fait. Mais le tout, c'est de savoir si on le fait, si le début, ça dure 20 ans ou 5 minutes. Alors, un début très court, je suis pour. Personne n'a tout inventé. Mozart, il y avait quelqu'un avant lui. Charlie Parker aussi, personne n'a tout inventé. Donc s'inspirer des aînés, ça me paraît une chose indispensable. S'inspirer plus ou moins, reproduire note par note, c'est peut-être aller un peu loin. Quand on a un petit peu de culture musicale et qu'on a des idées personnelles, on n'est plus obligé au bout de très peu de temps de reproduire. Il faut surtout pas reproduire.
Pourquoi vous avez toujours refusé de vous installer aux États-Unis, qui vous faisait un pont d'or ?
J'ai pas compris.
Pourquoi vous ne vous êtes jamais installé aux États-Unis ?
pour des raisons que j'explique dans le livre à 18 euros qui est là.
17 sur Internet.
Non, pas comme je l'ai dit.
Qu'on trouve à la librairie du festival.
N'ai jamais voulu pour des raisons, parce que j'ai, puisqu'il faut tout vous dire, j'étais en plein divorce quand j'ai eu ma première invitation. Je venais de divorcer, j'avais un fils qui était très jeune et je l'ai quitté pendant 5 mois pour vivre aux États-Unis. Puis j'ai pas pu continuer, je suis revenu, j'avais d'autres engagements que je n'ai pas honorés, puis je n'y ai pas vécu, mais j'y vais tous les ans quand je veux. J'y étais au mois de juin dernier. Et je me paye le luxe de refuser des concerts là-bas. C'est quand même pas mal, non?
Alors voilà, c'est ça l'humilité superbe de Martial Solal. C'est la conscience de vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez comme musicien.
J'étais ailleurs, excusez-moi, oui, dites-moi la question.
Non, mais si ça ne vous intéresse pas, parce que je suis venu d'assez loin pour vous poser des questions. Mais
si vous m'intimidez, alors alors répétez la question, soyons sérieux.
Mais moi, je ne m'en souviens plus maintenant. C'est pas... Non, quand vous dites « je me paie le luxe de jouer quand je veux », donc après tout, pourquoi y rester ? Alors je vous demandais malicieusement si c'est ça ce que je perçois comme... votre grande modestie réelle, hein, que je mesure et que je connais, et puis aussi quand même une conscience de soi forte.
Oui, mais vous savez, j'ai tellement été aimé et détesté par plein de gens que je me suis habitué à me juger et avoir confiance et n'a plus avoir confiance. Et puis maintenant, actuellement, c'est la confiance qui prend le dessus, c'est tout. Peut-être que le prochain livre, ça sera le contraire. Alors j'ai donc confiance en moi au point que je crois que je joue assez bien pour être invité au festival de Bernard Lubat, aussi bien qu'à New York. Il n'y a pas de différence pour moi, en fait. Mais refuser un concert à New York, évidemment, ça fait plus d'effet. En fait, j'ai refusé, c'est vrai, j'ai refusé plusieurs fois à New York, j'ai refusé. J'avais même un engagement à Washington il y a 2 ans, et je ne suis pas allé. Et à la suite de ça, plusieurs amis américains et des musiciens français vivant là-bas m'ont envoyé des mails en disant « Mais c'est vrai que vous êtes très malade ?» Parce que l'agent avait dû faire circuler la nouvelle. Enfin, l'excuse pour expliquer mon refus, c'était que j'étais très malade. Voilà. Alors je vais bien, je vous rassure.
Et dans cette conscience de vous aussi, c'est un point qui revient souvent. Dans le livre, vous dites qu'il y avait une chose que vous ne vouliez pas faire. D'aucune façon, c'est jouer à la manière d'eux ou répéter quelque chose déjà fait.
Oui, répéter note à note, ça signifie jouer à la manière d'eux, forcément. Mais c'est un peu comme quand on écrit un livre. Si vous recopiez Balzac, c'est pas tellement intéressant. Il vaut mieux écrire à la manière de Francis Marmont, par exemple. Il écrit très bien, je crois. Il est dur à lire, très dur à lire. Beaucoup plus dur que moi.
Ah non.
Ah si.
Non, non, non.
Ah non, c'est pas pareil.
Je vous l'accorde, ça se vaut, mais... mais c'est pas...
Non, je veux dire, vos livres, papa n'est pas les écrits dans la presse, quand vous parlez de moi, c'est très bien, je trouve. Mais j'ai sur ma table de nuit, je vous jure que c'est vrai, ma femme récemment a acheté un ensemble de livres de plusieurs petits fascicules reliés par du plastique. Au bout d'une semaine, j'ai enlevé le plastique. Au bout d'un mois, j'ai lu le premier. J'ai eu beaucoup de mal. Une histoire de lapin, je crois, non ?
Et c'est sous du plastique maintenant ? Où est-ce que ça se trouve, ça ?
Oui.
Bon, alors, je vous fais observer quand même que vous parlez de fascicules, sont des livres de 240 pages chacun.
Non, non, plus petit que ça.
Comment ça, plus petit que ça ?
239.
Et on trouve ça où ?
C'est pas. Mais je vous assure que c'est vrai, j'ai essayé. Vous êtes très dur à lire. Mais c'est un vrai plaisir parce qu'il faut un dictionnaire à côté.
Finalement, les deux compliments que j'ai eus, c'est celui-ci, le vôtre, et mon défunt père qui n'avait jamais lu un livre, mais ce n'était pas un idiot, il lisait les journaux, les magazines, il ne lisait pas de livres. Et un jour, par accident, il a lu un de mes livres et il m'a dit « Écoute, je n'y ai rien compris. Et en même temps, je l'ai lu tout d'une traite, parce que on ne sait pas du tout ce qui s'y passe, et on a toujours envie de connaître la suite. Je trouve ça pas mal.
C'est une bonne analyse. Non, mais en fait, c'est vrai, c'est un compliment. Et en même temps, le défaut, c'est le lecteur qui l'a, c'est pas vous. C'est le lecteur n'est pas assez, toujours assez compétent. On peut dire la même chose quand on joue du piano. Honnêtement, il y a des gens qui ne comprennent rien. Déjà, quand j'avais 15 ans, les gens autour de moi ne comprenaient pas ce que je jouais. Maintenant, le public a fait des progrès. Et puis moi aussi, peut-être. Enfin, j'arrive à faire passer des choses. Non, mais c'est vrai que c'est l'ésotérisme, c'est relatif. Ça dépend de la culture de celui qui lit ou de celui qui écoute. Si j'ai eu du mal à lire vos livres, ce ne sont pas les livres qui sont en cause, mais ma compétence.
Non, les livres, ça joue aussi. Et le... Dans cette relation entre l'auditeur, sa compétence, le musicien, en l'occurrence, on va revenir, vous parlez à un moment dans ce livre de quelqu'un que je pense aimer en tant que musicien plus profondément que vous, c'est Ornette Coleman. Et vous en parlez de façon un peu distante. Et je me souviens de propos, au moment où le disque intitulé Free Jazz était sorti en France, là vous étiez carrément...
Oui, fâché. C'est pas lui que j'attaquais en fait, c'est ce qu'il avait déclenché. C'est-à-dire une foule de musiciens en herbe qui ont cru qu'on pouvait tout d'un coup devenir musicien de jazz parce que les règles avaient changé, qu'elles étaient abolies, que toutes les grandes difficultés avec lesquelles nous étions coltinés pendant des années étaient tout d'un coup n'avaient plus cours. Il a laissé croire, il ne voulait pas le faire, c'était pas son but, mais un tas de musiciens non expérimentés, pas suffisamment cultivés, se sont déclarés musiciens professionnels. Et c'est pas ce qu'il y avait de pire, parce que ça c'est plutôt louable, c'est que les vrais entre guillemets musiciens qui ont précédé ce changement étaient complètement passés de mode. Et carrément, nous étions devenus plus beaux à rien, quoi. C'est un peu ça qui me...
Vous avez traversé un mauvais moment, hein?
J'ai traversé un très mauvais moment, mais dans les clous.
Et après, c'est revenu.
Après, c'est pas moi qui suis revenu, c'est l'ensemble du public et des musiciens qui s'est lassé de cette liberté, entre guillemets, qui n'en était pas vraiment une liberté qui n'était pas étayée, qui n'était pas balisée, qui était finalement une absence de liberté. Parce que la liberté, il n'y a rien de plus beau. Si vous êtes en prison et que vous avez la clé pour sortir, c'est merveilleux. Mais si vous habitez dans un château toute votre vie, il n'y a plus de liberté. Je suis sûr que vous n'avez pas compris, moi non plus. Hop, merci.
Sur ce sujet-là, justement, des amateurs et des professionnels et de la liberté et du free, moi, ce que j'en pense, c'est qu'à cette époque, il y a plein de musiciens, enfin, de gens qui se sont réveillés, qui se sont bombardés musiciens pour des raisons... ils ne savaient pas jouer, en effet. Mais justement, parce qu'ils ne savaient pas jouer, pour les gens comme moi, qui à l'époque avaient la prétention de savoir jouer, enfin j'avais été éduqué à savoir jouer, ces gens-là qui ne savaient pas jouer, néanmoins, nous ont influencés à nous tous qui savions jouer. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert des portes, ils ont franchi des interdits, Et alors, ce qui m'a frappé à l'époque, c'est que les critiques, comme Francis Marmon, c'en était un, je me dis, mais comment ça se fait? Eux, ils tombent dans le panneau, ces musiciens qui ne savent pas jouer. Alors, je me suis dit, ces critiques, ils ne connaissent pas la musique. C'est sûr, ils ne connaissent pas la musique. Justement parce qu'ils ne connaissaient pas la musique, ils ont entendu qu'il y avait là-dedans de la musique. C'est-à-dire de la musique au futur. Et c'est cette période, et ces musiciens, à nous, qui sachions, nous les sachants, quoi, on a été élevés en tant que sachants, ces gens qui criaient, qui gueulaient, qui jouent des bizarreries, des espèces d'arythmies, de la musique que j'appellerais maintenant atatonale. Hein, ils jouaient à tâtons, quoi, atatonale. Et ceci dit, ça me fait penser un peu à la peinture aussi quand le figuratif explose et que d'un seul coup on se met à peindre d'autres choses où il n'est plus question de savoir peindre, il est question de savoir être. Et ces musiciens-là, à l'époque, quoi qu'il en soit, Ornette Coleman, à mon avis, en est un, et bien d'autres, parce que moi j'étais énervé aussi par ces types-là, par exemple, ce nombre de batteurs qui ne savaient pas tenir le tempo, par exemple. À l'époque, ils ne savaient pas tenir le tempo, mais en même temps, ils jouaient une espèce de continuum à la batterie qui était entraînant, qui n'était pas une métrique régulière, mais qui était une espèce de... Alors, en même temps, à l'époque, moi, je commençais à jouer de la musique contemporaine avec Luciano Berio, Boulez et tout ça, et il y avait des accointances bizarres entre ces sauvages qui ne savaient rien, mais qui tapaient dans le tas, et ce qu'on appelait la musique savante. Alors, c'est pas si simple. Voilà ce que j'en pense. Moi, je pense que... Alors, les critiques dont tu faisais partie à l'époque, vous avez entendu dans votre idiotie, dans votre inconnaissance, par votre inconnaissance, vous avez entendu des choses que nous, les connaissants, on n'a pas perçues. Voilà quelle est mon analyse, si vous voulez. Voilà. Et ça, c'est assez étrange. C'est pour ça que je me méfie de moi. Et depuis que j'ai lu que les goûts sont faits de mille dégoûts, je me méfie des goûts.
Bon, je vais pas essayer de racheter les critiques, mais je dois dire que j'ai quand même suivi les cours de piano de Madame Alpers. Alors, le problème de Madame Alpers et moi, c'est que elle voulait faire de moi Liszt, car c'était la pédagogie de son temps. Et moi, j'étais extrêmement impressionné par la beauté de Madame Alpers, qui m'égarait du piano. Bah, tout ça était un malentendu qui a duré une dizaine d'années. J'en garde un souvenir ébloui. C'est la grand-mère de Manuel Rochman. Oui. Non, c'est pour dire que l'inconnaissance de la connaissance de celui qui ne connaît pas de l'idiotie de Grothe et compagnie, ça allait taper du Czerny quand même. Et je peux vous dire que jouer du Czerny, moi j'aurais préféré avoir un professeur piano qui me dise « Allons-y, Scott Joplin, tout de suite » et tout ça. Non, non. Nous nous sommes fait chier. Alors, il y a aussi quelque chose que je trouve très, très remarquable dans le fait que vous dites, Martial, page 111, « Pour simplifier, je dirais que le pianiste, improvisateur de jazz, c'est-à-dire vous ce soir, parce que vous êtes aussi compositeur, directeur de Big Band et compositeur important de musique de film. Voilà, le pianiste improvisateur de jazz aborde rarement les plus grandes difficultés de l'instrument. Et un peu plus loin, vous parlez d'un phénomène de reconnaissance qui est connu vous concernant et qui est la reconnaissance par les plus grands instrumentistes ou solistes, de piano classique comme Samson François ou Richter. Et eux, par exemple, qu'est-ce qu'ils vous ont... D'après vous, qu'est-ce qu'ils entendaient en vous qui pouvait les intéresser, justement? Si dans cet exercice-là, vous n'abordiez pas, le sachant, l'aspect le plus difficile du piano?
C'est flagrant, c'est valable avec tous les instrumentistes de la musique classique. Ils sont toujours très étonnés que nous puissions jouer sans partition et construire une œuvre à partir de rien, alors qu'on a besoin absolument d'avoir non seulement l'écrit, mais avoir travaillé cet écrit, connaître tous les doigtés, avoir un parcours très balisé. Ils ont un parcours qu'ils suivent le mieux possible. Mais sans partition, ils sont perdus. Enfin, la plupart d'entre eux, sauf les plus intéressés par cette musique, beaucoup de nos jours essayent d'improviser. Enfin, ce qui les stupéfie, c'est notre facilité, nous les improvisateurs, à jouer sans musique, sans partition écrite. Mais il ne faut pas s'illusionner, les partitions non écrites sont écrites dans notre tête quand même. On n'invente pas la musique tous les jours. On invente une mise en forme différente, une synthèse de tout ce que nous avons en tête, de sorte que le discours peut être
très souvent très différents, mais c'est un discours qui existe quand même. La difficulté, c'est qu'il est, il n'est pas copie conforme d'une partition. Voilà. Alors, ce qui intéresse les musiciens symphoniques en général, c'est ce qui les étonne, c'est l'absence de partition, avant tout.
Et lorsque vous vous êtes trouvé dans le cas de composer de façon concertée pour vos différents groupes de 10 ou 12 participants ou pour les musiques de film, là vous changez de personnage ou vous changez de méthode ou vous changez de style ?
Oui, forcément, dès qu'on est un grand nombre de musiciens réunis, il faut une organisation. On ne peut pas imaginer que 80 musiciens dans l'orchestre symphonique fassent tous inventent leur musique dans l'instant. Ça a été fait, remarquez. J'ai fait des essais avec Marius Constant et d'autres, Constantin Simonovitch, en fait des musiciens de la musique contemporaine, des essais d'improvisation totale pour un grand nombre de musiciens. Mais le résultat n'était pas brillant. Donc pour un orchestre plus important, j'écris la musique davantage, avec des parties improvisées.
Vous parlez de, pour l'écriture de la musique de film, puisque vous avez composé pour une centaine de films ?
Non, une quarantaine. Une quarantaine, à peu près.
Mais vous dites 80 dans le livre, alors j'avais dit 100 parce que je trouvais que ça faisait bien, puis vous descendez à 40. On s'arrête à combien là ?
Non, mais je suis modeste de nature. Et surtout plus précis, quoi. Puis, j'aurais bien voulu écrire 100 musiques de film. Mais au moment où j'étais lancé dans cet univers, le jazz est passé de mode dans l'esprit des cinéastes. C'est un peu d'ailleurs à la même époque que l'avènement de d'Ornette Coleman. Peut-être un peu pour ça que je lui en voulais. C'est vrai qu'il y a eu un désintérêt pour le jazz à partir d'une certaine époque, le milieu des années 60 environ, alors qu'avant ça, tout le monde voulait du jazz dans ses films, des courts-métrages, des grands films, c'est vrai. Il y a eu une période faste.
Alors il y a un film qui est resté 5 semaines à l'affiche, autant dire que c'était pas tout à fait un triomphe, on va dire ça de façon discrète, et c'est le deuxième film, vous allez évidemment me contredire, mais enfin bon. Donc le premier film, c'est celui de Melville, pour lequel vous faites 7 minutes dans Deux hommes dans Manhattan. Et ensuite, Melville vous présente à Godard, et Godard vous demande de faire la musique de À bout de souffle, que je suis retourné voir spécialement pour aujourd'hui, mardi soir. Donc j'aimerais bien que l'organisation me rembourse les 3 euros, parce qu'actuellement il y a une opération 3 jours, 3 euros. Et alors j'ai été frappé, parce que j'ai vu le film évidemment, y compris à sa sortie, en le revoyant, mais il faut dire aussi que le niveau sonore de la salle était à mon goût excessif. Mais en revoyant le film, j'ai été frappé par la très grande présence de la musique. C'est-à-dire que c'est pas du tout une musique d'accompagnement ou de divertissement. Voilà, elle est là, elle joue un rôle dramatique, narratique, opératique. Et c'est très curieux parce que le tout début, sur le générique, il y a une sorte de cri de trompette. Ascenseur, c'était avant. Alors, vous aviez ça en tête pour vous démarquer de ça
Non ? Non, il n'y a aucun point de comparaison. Alors, Ascenseur pour l'échafaud, c'était une musique pratiquement complètement improvisée. Et là, c'était le contraire. C'était une musique entièrement écrite. Il y avait bien effectivement une trompette, mais enfin, le fait qu'il y ait des trompettes dans un orchestre, c'est pas étonnant. Quand même.
Je signale quand même pour le...
Si bémol.
Vous avez l'oreille absolue ?
Non, mais une fois sur 12, ça marche.
Je signale, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, qu'il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est la rencontre de travail donc entre Martial Solal et Jean-Luc Godard et projection du film. désignation des endroits où le réalisateur souhaite qu'il y ait de la musique. Et en se quittant, Godard, ou en vous quittant, Godard vous dit, je verrai une musique, je ne sais pas, peut-être une chose pour un seul instrument, et peut-être un banjo. Et vous n'avez jamais su s'il était sérieux ou pas.
J'ai fait celui qui ne comprenait pas. Parce que d'abord, il n'y a personne de jouer de banjo à Paris. Et puis non, le film ne m'inspirait sûrement pas ça. Donc au lieu d'un banjo et d'un seul musicien, je suis arrivé avec un big band de 15 musiciens et un orchestre symphonique de 40 violons. Il n'a pas eu l'air surpris. C'est ce qui m'a amené à croire qu'il avait voulu plaisanter. En fait, il ne savait pas ce qu'il voulait, quoi. Donc il m'a laissé carte blanche. On avait le même âge, donc pas une expérience folle de la musique de film, ni lui ni moi finalement. Et il m'a laissé faire, et tant mieux. Tant mieux pour moi, je veux dire.
Et il y a un moment du film où un dialogue entre Belmondo et Gene Seberg, et il y a un contrepoint à la flûte. Et là, on a l'impression que c'est écrit sur l'image.
Non. Ce n'était pas écrit sur l'image. D'ailleurs, je ne suis même pas
sûr. Est-ce que vous ne pouvez pas me dire oui pour... Non.
Pour la prochaine fois, mais pas...
D'accord.
Non, je crois que... Il me semble souvenir que c'est un disque à ce moment-là et que ce n'est même pas ma musique.
Si.
Vous êtes sûr?
Ah non. Bon, eh bien, chers amis, sur cette humiliation publique, je vais remercier Marcel Solal pour qui
non,
j'ai le plus
grand... Non, un disque de flûte.
Non, c'est votre
musique. Il faut que je vous dise que c'était en 1959. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés, alors nous avons une excuse.
Non, à la fin, il y a le concerto de clarinette.
Ah oui, c'est ça, il a raison. Le disque est à la fin. Bravo, Francis. Alors, je ne revois pas du tout de la flûte dans la grande scène du lit, là, c'est ça?
Oui, c'est dans la grande scène du lit, et il y a... Mais c'est une chose que Godard va refaire très souvent, mais de façon très, très organisée, si j'ose dire. C'est-à-dire une phrase prononcée par le comédien et une échappée de flûte, une phrase...
Oui, bien sûr, vous avez raison. Ouais. Il a raison. Ça me revient.
Pour me résumer, je ferai une confession publique. C'est Martial Solal, évidemment. J'aime la musique comme l'air que je respire, comme les quelques personnes qui me sont proches, comme le pain, comme dormir, comme vivre, tout simplement. C'est parce que j'aime tant la musique que je déteste les faiseurs de musique qui jouent de la naïveté, de l'ignorance, d'auditeurs abétis, qui exploitent leur surdité, qui en même temps leur procurent du bonheur. Alors faudrait-il obliger le public à aimer autre chose que ce qu'il aime? Après tout, j'ai peut-être trop tort de trop aimer la musique. Et finalement, c'est si reposant d'avoir tort. C'est là que vous êtes à la fois dans l'affirmation et puis le retour, enfin le plaisir de jouer avec le lecteur, comme vous jouez quelquefois avec l'auditeur. Plusieurs fois, vous faites cette déclaration d'amour à la musique ou au jazz, par exemple.
Bah, j'ai pas de mérite, hein. J'aime le pain beurré, par exemple, aussi. Je peux pas dire le contraire. Vous avez prévu ça ce soir, non?
Le cinéma,
non, mais d'abord la musique. Pour la bonne raison que je suis né dans la musique et sans musique, je n'existe plus, quoi.
Vous dites aussi que vous n'en écoutez pas beaucoup.
Oui, mais j'en joue tout le temps.
Vous continuez d'en jouer avec les livres que vous lisez pour travailler?
Oui, bien sûr, je regarde la télévision en travaillant. C'est un bon système. Oui, mais j'ai aucun mérite. Tous les musiciens aiment la musique, en fait. Je ne vois pas pourquoi on en parle, même. Non, c'est vrai. C'est normal. Et de demander à Bernard ce qu'il pense de la musique. Bernard, où es-tu? Il est déjà parti? Bernard, parle-nous un peu de la musique.
Parler de la musique, oui, mais on essaie de parler de la musique puisque la musique nous fait parler, quoi. Pour essayer de quand on en joue beaucoup, et ça fatigue, et je parle de musique, quoi. C'est toujours ça de moi, parce que ça, il va falloir que je joue. Alors je joue, que je parle, que je joue. On ne s'en sort pas, quoi. C'est pour ça que j'ai invité des amis, hein, pour essayer de comprendre ce mécanisme. Tu joues ce que tu parles et tu parles ce que tu joues. En joue, je. On joue, oui. Hein, c'est un peu ça, c'est... c'est tout. Parce que ça marche à Louis, la musique. Et Louis, c'est ouvert 24 heures sur 24. C'est infernal, ça s'arrête jamais, même quand vous dormez.
Ton fils s'appelle comment ?
Louis.
Et alors... Et j'ai écrit trois fois, et ça m'a été reproché trois fois, que je préférais les musiciens à la musique. C'est une phrase que vous comprenez ou elle est stupide ou
Préférer les musiciens à la musique. Mais sans musiciens, il n'y a pas de musique. Difficile. Je n'ai pas de commentaire à faire là non.
Je pense que les... Oui, mais c'est pour ça que je préfère les musiciens. Non, les idéalistes aiment la musique comme si c'était une espèce d'absolu et qu'il y aurait des serviteurs sur Terre un peu humbles qui passeraient par là et qui essaieraient de l'approcher. Voilà, pour moi, c'est une position métaphysique. Je suis matérialiste. Ce que j'aime, c'est les musiciens qui jouent la musique parce que la musique existe, parce que les musiciens sont là. Je respecte Martial Solal au-delà de ce que vous pouvez imaginer. J'aime ces messieurs, Martial Solal et Bernard Lubat, et je vous remercie pour votre attention.
Merci.